Bonjour à tous, je suis très heureux de me trouver dans ce lieu, au milieu de vous. Il y a beaucoup d'émotions et je vous dirai pourquoi, mais brièvement. Mais je me présente, je suis Félix Yoka, j'habite dans le Gard à Uzès, et je travaille un peu partout, mais... J'ai mon bureau, enfin, l'association pour laquelle je travaille est basée à Wissous. Donc, je fais de temps en temps des trajets, Uzès, et puis venir ici en région parisienne, à Wissous, où il y a le centre névralgique, le bureau national de l'AE. Et là, eh bien, il y a quelqu'un qui m'épaule, qui m'aide et qui fait partie de votre assemblée, eh bien, c'est Marguerite. Alors, qui nous permet, tout en restant dans le Gard, eh bien, travailler quand même un peu au bureau. Et elle m'aide pour cela et je suis vraiment reconnaissant pour son travail de qualité et qui permet aussi à accomplir le mien. Je vous ai dit que je viens d'Uzès, mais je suis d'origine congolaise. C'est pas le plus important c'est que je suis citoyen du monde, mais je suis d'origine du Congo, ex-Zaïre, que j'ai quitté il y a pas mal d'années. Je suis marié à Odile, ma femme qui est française, et j'ai pu aussi acquérir la citoyenneté française. Nous avons deux filles mariées, et toutes les deux dans le Seigneur. Voilà, et puis je me dis, je suis dans un milieu connu, presque dans la famille. Alors qu'il y a 30 ans, enfin, je ne dis pas l'année, bon, je l'ai dit quand même, quand je suis passé à Nogent sur Marne, même si je n'ai pas fait l'hébreu, j'ai fait le grec, mais on avait une excellente professeure d'hébreu que j'ai retrouvée quelques années plus tard. Donc je connais Dani, je connais Daniel et je connais surtout leur nièce qui est dans notre église et qui fait partie aussi de l'AE. Je parlais de Marguerite, je parle aussi de son époux qui nous aide pour le ministère de l'AE. Alors encore beaucoup d'émotions, parce que j'ai retrouvé une amie, une sœur en Christ, connue il y a 30 ans. Et ça fait 27 ans que je ne peux jamais revoir. J'étais en Belgique, et quand elle a appris que j'étais là ce matin, elle me fait un grand, immense plaisir de venir en ces lieux. Donc, Angélique et sa fille, qui nous viennent de la Belgique, et puis beaucoup d'émotions, et merci d'être là au milieu de nos frères. Voilà. Merci de m'avoir permis de dire ces petits mots. Je suis bien sûr responsable de l'AE, mais ce qui me motive dans ce que je fais, c'est simplement glorifier le Seigneur et permettre que son royaume s'étende. Voilà. D'habitude, quand je vais dans une assemblée, souvent on me dit, parle de ce qui le Seigneur a mis sur ton cœur. Et vous imaginez que souvent, je parle de ce qui fait battre mon cœur, c'est la jeune génération des enfants. Mais là, je vous avais demandé de parler de la femme samaritaine. Je me suis réjoui, c'est un beau défi de pouvoir visiter un texte que je connais, mais que je ne connais pas très bien, un texte que je n'ai jamais, sur lequel je n'ai jamais prêché. Et ça, c'était aussi une grande joie de visiter ce texte et de découvrir des perles incroyables. Merci pour l'occasion que vous me donnez de partager avec vous la parole de Dieu. Voilà, c'est le chapitre 4, parce que vous êtes dans cette étude cursive de suivi de la parole de Dieu dans Jean, un des plus beaux livres de la Bible. Mais avant de découvrir le passage et de vous annoncer ce que j'ai sur le cœur, j'ai quelques questions à vous poser. Quand avez-vous pour la dernière fois parlé de Jésus à quelqu'un? Un an. Quand Est-ce que vous avez, pour la dernière fois, partagé Christ avec quelqu'un? Le faire, c'est notre responsabilité. C'est votre responsabilité. Quand est-ce que vous l'avez fait pour la dernière fois? La deuxième question que je me permets de vous poser, je me la suis posée moi-même, comment est-ce que cela s'est-il passé? Dans ce 1 an où vous avez annoncé le Christ, votre Seigneur, comment cela s'est-il passé? C'est important de réfléchir à la manière dont nous témoignons, la manière dont vous témoignez. C'est important de réfléchir. Comment cela s'est-il passé? Et la troisième question, quel est le message que vous avez annoncé? Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi? Ce sera le prochain diapo, mon grand. Tu veux bien passer? Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce qu'une juste compréhension de qui est Jésus est essentielle et indispensable au salut. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est un peu le cœur du message que j'ai préparé pour vous en me basant sur ce texte de Jean chapitre 4, et je vais vous en faire la lecture. Le Seigneur Jésus, ayant su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il lui fallait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné le vivant. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et puis le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, eh bien que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, il est déjà venu où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Eh bien, ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, moi qui te parle, je suis. Dans votre Bible, dans ma Bible, il est écrit dans celui qui te parle, c'est moi qui te parle, je suis. Mais dans l'original, c'est moi qui te parle, je suis. Je suis. Je suis. Et ça fait écho à quelque chose et j'y reviendrai plus tard. Mais avant de rentrer dans le cœur de mon message, enfin jusque-là la parole de Dieu, avant de rentrer dans le cœur du message, j'aimerais faire quelques observations, quelques remarques sur ce texte, ce beau texte. Parce que vous êtes dans l'étude de Jean, vous savez pourquoi Jean a écrit. Pourquoi il a écrit cet évangile depuis Éphèse, vers les années 90. Vous savez pourquoi? Il avait une intention. Et nous lisons dans Jean 20, au verset 30, il est dit, devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre, dans le livre de Jean. Ce qu'on a raconté ici vous permet de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors si vous croyez, vous aurez la vie. Pourquoi Jean écrit ce livre? Eh bien, c'est pour nous dévoiler le Christ. Alors que nous allons lire, enfin étudier ce texte, ayez en ligne de mire le but de Jean. Il nous présente Christ pour que, en croyant en lui, vous ayez la vie. Je pense que vous avez tous trouvé la vie en Christ si vous croyez en lui. Vous avez trouvé en lui le Messie. Il vous a sauvé. Et c'est pour cela que nous pouvons l'acclamer ce matin comme nous l'avons fait. C'est pour cela que nous pouvons le célébrer parce que nous l'avons rencontré. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore fait cette expérience. Et nous avons la responsabilité d'annoncer Christ. Voilà le but. Et puis, toujours dans ce dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, eh bien, la femme samaritaine dit à Jésus, « Pourquoi, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis samaritaine ?» Il y avait une sorte d'antagonisme, une sorte de haine entre les juifs et les samaritains. Au temps de Jésus, la Palestine comportait trois régions, trois parties importantes. Il y avait la Judée au sud et la Galilée au nord, et entre les deux, il y avait la Samarie. Et tout juif, je dirais un juif QSR, c'est-à-dire un juif qui se respecte, un juif BCDG, bon chic, bon genre, ne passez pas par la Samarie. Il fallait faire un détour. Il fallait éviter ces impurs. Il fallait éviter cette ethnie d'hérétique. Au lieu de passer par le chemin le plus court, il traversait sur le flanc est du Jourdain, il traversait le Jourdain, passait par la Pérée, par les dix villes, hein, on appelle ça des Capoles, et retraversait le Jourdain, et passait dans la Galilée, parce qu'il ne fallait pas passer par les Samaritains. Par les Samaritains, il fallait pas. Et cette haine était terrible. Vous vous souvenez, hein, plus tard, on va insulter le Christ. C'est les pharisiens qui vont l'insulter en disant « Mais toi, tu es un samaritain, tu es un démon en toi !» Les samaritains, c'était pour les juifs, des impurs, des hérétiques, et il ne fallait pas les côtoyer, il ne fallait pas passer par là. Et toujours pour vous situer le contexte, Alors que Jésus plus tard va faire le chemin inverse, c'est-à-dire de la Galilée en Judée, il envoie des messagers pour lui préparer une place en Samarie, il va passer par là pour aller à Jérusalem, eh bien il ne sera pas le bienvenu. Les fils de Boanès, Jean et Jacques, son frère, le fils de Tonnerre, ils étaient indignés. Le Christ n'est pas le bienvenu dans ce pays, dans cette ville, dans cette région. Seigneur, veux-tu qu'on demande que le feu descende d'en haut comme Élie et consume ce peuple? C'est un peu des relations tendues. Je ne sais pas si on peut les comparer, là, cette animosité entre les deux peuples. Je ne sais pas, pour moi, africain, je ne sais pas si on peut comparer ça à la haine qu'il y a entre les Hutus et les Tutsis. Vous donner quelques idées. Est-ce qu'on peut comparer cela à la haine qu'il y a entre les Palestiniens et les Israéliens, entre les Serbes et les Bosniaques? Non. Il ne fallait pas passer par là, il fallait éviter. Mais lorsque Jean et Jacques ont dit à Jésus, tu veux qu'on demande que le feu descende d'en haut, Jésus le regarde et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais il est venu pour les sauver. Voilà l'intention du Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde pour que les gens aient la vie, pour que les brebis aient la vie. Jésus ne tient pas compte des préjugés, il ne tient pas compte ni des classes sociales. Il va au-delà de ça, parce que l'Évangile n'a pas de frontières. Chers amis, ça vous le savez bien. Pour Jésus, il fallait passer par la Samarie. Mon message comporte 4 points. Le Christ est intentionnel. Intentionnel dans ce qu'il dit, intentionnel dans ce qu'il fait, intentionnel dans les endroits où il va. Il sait où il va et il sait pourquoi. Il sait ce qu'il dit, il sait et il sait pourquoi il le dit. Il sait ce qu'il fait et il sait surtout pourquoi il le fait. Le premier point, le Christ est intentionnel. Le deuxième point, il est parfaitement homme. Cela se dégage de ce texte. Et troisièmement, il est la source d'où jaillit l'eau vive. Et quatrièmement, il nous révèle qui on est, il nous révèle le vrai culte, et il nous révèle aussi qui il est. Jésus est intentionnel. Il y a cette phrase banale qui peut passer inaperçue. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il lui fallait. Non, il aurait pu, comme tous les Juifs, qui se respectaient, suivre le chemin le plus long, mais qui évite la Samarie, mais il va passer par là. Parce qu'il a pris un rendez-vous, cher ami. Il avait un rendez-vous divin avec une personne qu'il ne savait pas. Il allait rencontrer la Samaritaine. Il est intentionnel dans son passage par la Samarie. Intentionnel par le fait qu'il va s'arrêter au bout. Il aurait pu se passer s'arrêter avant ou après ce puits. Mais il s'arrête là. Il est aussi intentionnel dans les paroles qu'il va prononcer. Donne-moi boire. Il avait une intention. Quelle était cette intention? C'était de rencontrer cette femme. Il lui avait donné rendez-vous là. Chers amis, je ne vous connais pas pour la plupart. Mais peut-être que le Seigneur vous a donné rendez-vous aujourd'hui à Montreuil à 11h10. C'est mieux. Peut-être que vous ne le connaissez pas personnellement. Il vous a donné rendez-vous ici. Saisissez cette occasion. Saisissez sa main. Il y a en réserve pour vous des grandes choses. Il est intentionnel. Il veut vous sauver. Vous savez que, chers amis, le Seigneur a aussi besoin de nous, il a besoin de vous. Nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa voix. Il veut sauver les perdus. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, en région parisienne, à Montreuil ou dans la ville où vous habitez, le Christ a besoin de vous pour le proclamer, pour que ceux qui ne le connaissent pas le découvrent, le connaissent. Jésus te confie une œuvre d'amour et qu'il est béni jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Va vers la jeunesse, qui se meurt, sans Dieu, sans espoir. Parle-lui de l'Évangile. Va vers ceux que peut-être sont abandonnés, méprisés à cause des préjugés des âmes. Christ va au-delà. L'Évangile n'a pas de frontières. Il a besoin de nous. Quand est-ce que vous avez raconté, parlé de Christ à quelqu'un? C'était quand la dernière fois? Chers amis, le Christ que nous proclamons, il est parfaitement homme. Vous le savez, parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais homme parfait. Il est venu dans ce monde. Oui, il s'est incarné, hein, lui, qui a toujours existé depuis toute éternité, il s'est incarné, on va célébrer cela à Noël, sa venue dans ce monde. Il est homme, parfaitement homme. Et ce verset nous dévoile, nous met une lumière quelque part, ce chapitre, met une lumière sur l'humanité de Christ. Il a quitté la Judée, je ne sais pas quelle ville c'est, mais est-ce que c'est Jérusalem? Il va se rendre en Galilée à environ 160 km de Judée jusqu'en Galilée. Et en s'arrêtant à Samarie, il aura parcouru environ 60 km. Pas en voiture, mais à pied. Pour parcourir 60 km à pied, les bons marcheurs vont mettre environ 10 heures. Il arrive au puits, il est midi. Là, tu poses qu'il est parti. Il a dû peut-être en plus. Je ne sais pas si j'étais arrêté, parce que le texte ne le dit pas. Mais il a dû parcourir environ. Alors, environ 60 km, il a pu mettre à peu près 10 heures. Donc, s'il est parti, il est arrivé à midi. Le calcul, c'est que au puits, il a dû quitter la Judée à midi. Il arrive au puits, il est fatigué. Sûr, c'est un homme. Il est fatigué, il s'assied. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, midi, 40 degrés. Là, ce puits, il fait chaud. J'ai quitté, juste pour plaisanter, j'ai quitté mon pays d'origine, j'ai 35 ans, il faisait 45 degrés à Londres. J'arrive en Belgique. C'était l'hiver le plus rigoureux, c'était moins 20 degrés. Vous pouvez imaginer. Un Africain qui quitte son Afrique natale à 45 degrés à Londres. Et on était un amphithéâtre que j'ai connu à Angélique et j'ai dormi. J'ai tellement froid, j'ai dormi à la face tout le temps. Mais là, c'est pas mauvais degré, c'est pas de degré qu'on a ici. Mais, 40 degrés. Alors, il arrive fatigué. Et les disciples, même, ils disaient, ah, pourquoi est-ce que les 12 descendent à la ville pour chercher à manger? Et Jésus reste là, seul. C'était pas intentionnel, les disciples ne le savaient pas. Il n'y a pas un qui est même Jean qui était souvent proche de Christ. Il n'est pas resté avec lui. Mais les 12 sont descendus chercher le casse-croûte. Et Jésus est au puits tout seul. Intentionnel aussi dans le fait de rester seul au puits. Et puis on voit toute son humanité. Pourquoi Jésus-Christ est cet homme? On va le célébrer bientôt. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, n'est-ce pas? Pour nous révéler le Père, pour se substituer à nous, pour voir à notre besoin d'un sacrificateur, mais aussi pour partager tout simplement notre humanité. Lui qui n'a pas honte d'être d'être appelé notre frère. Il est parfaitement homme parfait. Il n'a pas honte de t'appeler sœur. Il n'a pas honte de t'appeler frère. Tu as du prix à ses yeux. Le Christ, voilà ce qu'on peut dire aux gens, il est intentionnel, il vous aime, il a un plan parfait pour vous, parfaitement homme, et on verra après qu'il est parfaitement Dieu. Dans ses paroles, je suis. Troisième slide. Il est la source d'où jaillit l'eau vive. C'est ce qu'on voit au verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de vie. L'eau vive, pardon. Alors, quel est ce don dont parle Christ? Si tu connaissais le don de Dieu, c'est qui ce don? C'est quoi ce don? Si ce n'est, si je fais un retour, un chapitre plus loin, vous l'avez sûrement étudié, Jésus dit à Nicodème, qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le don dont la femme avait besoin de connaître, le don, c'est Jésus-Christ lui-même, le don de Dieu, en même temps la source d'où jaillit l'eau vive. L'eau dont on a besoin, chers amis, l'eau est vitale. À Timothée ISP. Donc, au premier côté, c'est comment ça s'appelle? Comment? Nicole. Savez-vous combien de jours vous pouvez résister? Combien de jours vous pouvez résister sans manger? Sans manger? Non. Le costaud, l'homme est costaud, vous pouvez aller jusqu'à un mois sans manger, mais vous pouvez encore tenir. Mais sans boire, au bout de 3 jours, sans boire, sans manger, au bout de 3 jours, c'est la détermine. Au bout de 3 jours sans manger, sans boire, je ne l'ai jamais expérimenté. Sinon, je ne vous aurais pas parlé. Je ne serais pas devant vous. Mais j'ai lu ça quelque part. Au bout du trois jours, sans manger, sans boire, l'eau est vitale. On en a besoin. Et Christ se présente comme étant l'eau vive dont vous avez besoin. L'eau est indispensable. Et je peux faire le parallèle avec ce qu'a dit Blaise Pascal lorsqu'il a pu dire que dans chaque être humain, il y a un vide en forme de Dieu. Et tant que ce vide en forme de Dieu n'est pas rempli par Dieu lui-même, l'homme restera. Là, Jésus se présente comme la source d'où jaillit l'eau vive. C'est tout. Vous avez lu. C'est tout à laquelle vous avez lu parce que vous connaissez le Christ personnel. Jésus a dit, celui qui a soif, il vient à moi et qu'il boit. Venez. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, ça c'est des Esaïe, venez acheter. Le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau. La grâce de Dieu est toujours là pour vous. Venez boire à sa source. Cher ami, si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, il te relèvera. Quand souvent sur la route, tu te sens fatigué, dans la lutte ou le doute, quand tu es tenté, si tu bois au torrent, il te rafraîchira. Si tu bois au torrent, tu te relèveras. Jésus est l'onde pure qui peut désaltérer. Goûte-y, je t'assure, il peut te fortifier. Ça, c'est à l'instant, bon, c'est un cantique que vous avez chanté, c'est à l'instant qu'il a composé. Si tu bois au torrent, Il te rafraîchira, si tu bois au torrent, il te relèvera. Chers amis, venez boire à la source. Jésus vous donne son eau pure. Désaltérez-vous, rafraîchissez-vous. Le récit que nous venons de voir nous montre un Christ intentionnel, nous montre un Christ humain. Il nous montre aussi le Christ qui est la source d'où jaillit l'eau dont nous avons besoin, la source dont vous avez besoin. Mais il est aussi celui qui nous révèle plusieurs choses. Et dans ce passage, Jésus nous révèle quoi ? Ce que nous sommes, c'est que ça, cette femme était. Jésus nous révèle, mais avec un tact extraordinaire, sans jugement. Parce que s'il avait jugé, cette femme ne serait jamais ouverte à la grâce de Dieu. Elle ne serait jamais convertie. Ce n'est pas dans le jugement, c'est dans la grâce. Cette femme ne serait pas retournée au village et dire aux autres Samaritains, j'ai trouvé le Christ. Et si c'était des paroles de jugement, les autres Samaritains, vous le verrez plus tard, hein, dans la péricope suivante, vous verrez qu'il y a plusieurs Samaritains qui vont venir à Christ. Plusieurs. Ils vont connaître le Christ. Et Jésus aussi, dans son intention, il est resté deux jours en Samarie. Donc il a dit, allez, on va. Il avait des projets. Il révèle cette femme qui était. Il lui dit cinq maris et un concubin. C'est son jugement. Vous vous êtes demandé comment, je ne sais pas quel âge elle avait. Cinq maris. Sont ils tous morts? C'est probable. A-t-elle divorcé cinq fois? Vit-elle actuellement une relation légitime? Le Christ n'en est pas. Juste ici, la vérité. Pour révéler qui on est. Peut-être que la parole de Dieu révèle qui vous êtes. Et Dieu ne vous juge pas. Tout simplement pour vous permettre de quitter le royaume des ténèbres. Pour venir dans le royaume des lumières. Le Christ va aussi révéler le vrai culte. Ce n'est ni sur le mot garizim, il faut adorer Dieu, ni à Jérusalem sur le mot Sion, mais le vrai culte, c'est en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En esprit, ça ne veut pas dire, désolé, je ne sais pas quel est votre. De ma gauche, mais je pense que le culte en esprit, c'est pas aller, on est là, exalté, on parle en langue, non, c'est pas ça, mais c'est adorer Dieu selon la vérité qui nous est révélée par ton esprit dans la parole de Dieu, et selon la vérité, j'adore Dieu en comptant sur les ressources qui sont dans le Saint-Esprit. J'adore aussi Dieu en comptant en ayant pour base la parole de Christ qui est le Saint. La troisième chose que Jésus révèle ici, la femme dit, le Messie va venir, nous savons, mais le Christ est plus qu'homme, il est plus que Jacob, il est même plus que le Messie qu'attendait les Samaritains. Il est le Eni. Ego. Et ce n'est pas pour faire l'intelligent, moi je ne le suis pas. Mais c'est très important, ce terme grec, moi, je suis. Voilà, il se présente. C'est le Messie que vous attendez. Je suis celui qui s'appelle Je suis. Lorsque Dieu s'est révélé dans le buisson, ardent, à Moïse, Moïse dit, mais qui es-tu? Je suis celui qui s'appelle Je suis ego et il. Si vous ne croyez pas que je suis, c'est ce que Jésus dira aux pharisiens, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Il révèle qui il est. Il est celui, et je termine par là, celui qui a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je suis le cèpe. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si j'ai bien compté ces sept, mais si je ne sais pas sept, vous connaissez bien que je suis de Jésus qu'on trouve dans Jean. Pour nous révéler que Jésus est le Messie et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. Jésus est intentionnel, il a un plan parfait pour vous. Il est parfaitement homme, il n'a pas honte de partager notre humanité. Il est la provision à nos vies. Il est divin. Je suis. Nous devons, à l'instar de ce qu'il nous a montré, aller au-delà des frontières, apporter la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, je te remercie pour la richesse de ta parole. J'y ai lu ta parole qui nous est révélée. J'y ai commenté à ma manière, mais aussi avec de l'humain. Seigneur, ce qui n'est pas de toi dans ce que je dis, qui n'est pas propre à nous édifier, enlève-le de nos pensées, de nos cœurs. Mais ce qui est de toi dans ce que j'ai dit, Seigneur, qui est propre à encourager ton église ici, imprime-le dans nos cœurs. Fais-nous grandir, Seigneur, dans ta parole. Et aide-nous à marcher dans la vérité, à t'adorer en vérité et en esprit. Bénis ton église ici, Seigneur. Encourage celle à qui tu as confié des responsabilités. Qu'ils soient proches de toi, qu'ils puissent s'abreuver à la source pour pouvoir après enrichir ton peuple. Bénis l'église, bénis les enfants, bénis toutes les activités. Et je te prie aussi pour la jeune génération qui est là au milieu de nous. Fais-la grandir en toi. Garde-la fidèle. Et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.